8h30 en temps universel, RFI vous informe. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et le Sénégal à la une de cette édition. Le Sénégal, un an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, vécu à l'époque comme un moment historique, un moment de rupture. Où en est-on aujourd'hui à Dakar? Dans ce journal également, reportage à Lomé, au rassemblement hier de l'opposition togolaise. Des opposants toujours remontés contre la nouvelle constitution. Un moyen, selon eux, pour le président Niasimbe de se maintenir au pouvoir. On vous raconte aussi les déboires de la chaîne de télévision Djoliba au Mali et les dernières déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui assure qu'en matière de relations avec la France, son seul point de repère, c'est le chef de l'État français Emmanuel Macron. C'était il y a un an, tout pile, et c'était historique pour le Sénégal. Pour la première fois, les Sénégalais élisaient à la présidence de la République dès le premier tour. Celui qui était encore alors un opposant, Bassirou Diomaye Faye, candidat au nom du parti PASTEF, élu sur des promesses de rupture, après deux mandats et 12 ans de pouvoir de Macky Sall. Un an après, où en est-on? Des audits sur la gestion des finances publiques ont bien été lancés, mais les analystes pointent aussi une certaine lenteur dans les réformes. Pour Alassane Dao, qui est professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, si les choses vont lentement, c'est aussi en partie à cause de l'état financier dans lequel les nouvelles autorités de Dakar ont trouvé le pays.
L'agenda gouvernemental est hyper chargé. Il y a des questions prioritaires, urgentes qu'il faut régler. Dans un premier temps, c'était avec la question de l'agriculture, avec la campagne arachidière. Ensuite, il y a eu les inondations. Ensuite, il y a eu le vote de la loi de finances qui a quand même occupé une bonne partie, notamment du travail parlementaire, etc. Donc, c'est très compliqué de cadrer ça. Donc, si je dois les évaluer, je dirais il y a les aspects positifs, notamment avec l'audit des finances publiques qui a été certifié par la Cour des comptes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui ont une incidence budgétaire. L'instauration, par exemple, d'un juge de la liberté. Et il y a beaucoup d'autres mesures qui sont dans ce même ordre. Donc, quelque part, dans un contexte où la situation des finances publiques n'est pas reluisante, c'est le moins qu'on puisse dire, dans une situation très tendue financièrement, je pense que c'est une raison qui explique les retards dans la mise en œuvre de la réforme de la justice.
Alassane Dao, professeur de sciences politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, joint par Léalisa Westerhoff et cette première année de présidence de Bassirou Diomaye Faye. On en a parlé aussi ce matin avec notre invité Afrique, le secrétaire général du PASTEF, le parti présidentiel. Entretien avec Christophe Boisbouvier à réécouter sur RFI.fr. Au Togo, bientôt un an après l'adoption d'une nouvelle constitution en mai de l'an dernier, l'opposition est toujours vent debout contre le nouveau texte. Constitution qui fait basculer le pays dans un système parlementaire. Les opposants y voient surtout un moyen pour le président Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir. Des opposants qui ont organisé un rassemblement hier dans le centre-ville de Lomé. Reportage de Peter Sassou Dogbé.
C'est d'abord le professeur David Dosset, porte-parole du Front citoyen Togo Debout, qui a pris la parole.
Nous avons voulu aujourd'hui, dans une nouvelle démarche, rencontrer les populations, discuter avec le peuple togolais et réaffirmer notre résistance farouche face à cette forfaiture.
Ensuite, le leader des Forces démocratiques pour la République, Paul Dodi à Pévon.
Je voudrais vous rappeler que la lutte que nous engageons avec la peur, nous ne pouvons pas le faire. Mais pendant que la peur nous tient, où va le Togo? C'est la question qu'il faut se poser. Où va le Togo? Ils sont en train de couler le pays. Le Togo s'effondre petit à petit. Nous ne le voyons pas.
Et puis Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement d'ajouter.
En réalité, nous sommes en présence d'une constitution qui institutionnalise une dictature personnelle et militaire déguisé.
Un peu plus de deux heures d'échange devant une population acquise à leur cause. Les politiques présents espèrent pouvoir un jour revenir à l'ancienne constitution avec un régime présidentiel élu au suffrage universel direct. Peter Sassou Dogbé, Lomé, RFI.
Lomé, où il est maintenant 8h34, même heure à Ouagadougou, au Burkina Faso, où les journalistes dénoncent des atteintes à la liberté d'expression, disent-ils, jamais égalées depuis le coup d'État d'Ibrahim Traoré il y a deux ans et demi. C'est l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, qui s'exprime. Son président parle d'une mainmise totale de la junte sur des médias publics qui seraient devenus des outils de propagande. Il dénonce aussi l'arrestation et la séquestration de journalistes et de chroniqueurs, ainsi que des pressions des autorités de Ouagadougou. Ouagadougou pour fermer les médias indépendants dans le pays. Des médias en difficulté avec les militaires au pouvoir, également au Mali précisément. La chaîne Djoliba TV, elle avait dû cesser d'émettre au mois de novembre dernier après une émission lors de laquelle l'un des intervenants avait mis en doute un coup d'État que les autorités du Burkina Faso disent avoir déjoué. Finalement, après plusieurs rebondissements, Djoliba TV a été suspendue pour 6 mois. Depuis, des négociations se poursuivaient. Djoliba et la maison de la presse tentant d'obtenir une réduction de la sanction. Mais le temps passe et les négociations sont aujourd'hui au point mort, nous explique David Baché.
Le dernier acte débute le 16 janvier, lorsque Djoliba TV écrit à l'autorité malienne de régulation. « Ils estimaient que nos excuses n'étaient pas sincères », explique un pilier de la rédaction. « Donc nous nous sommes excusés plus clairement. Ça ne nous plaisait pas », poursuit un cadre de Djoliba. « Nous n'avons commis aucune faute, mais c'était pour sauver la boîte ». Peine perdue, mi-février, la HAC maintient la suspension de 6 mois. Depuis, plus rien. Il ne reste que 2 mois et demi, on ne pourra plus rien changer, se résigne un journaliste phare de la chaîne. On ne négocie pas la liberté, déplore un autre journaliste. J'aurais voulu qu'on organise des rassemblements, des journées sans presse au Mali. En novembre, à l'annonce de la suspension de Djoliba TV, la maison de la presse, qui rassemble les organisations de journalistes du pays, avait menacé d'une mobilisation nationale. C'était pour le rétablissement de la licence, explique un responsable de la maison de la presse. Après, pour la réduction de la suspension, nous avons privilégié le dialogue. En tout état de cause, les journalistes de Djoliba saluent l'accompagnement tenace de la maison de la presse et la solidarité des confrères maliens. Et regardent désormais vers la reprise, le 26 mai. « Nous allons rebondir », promet un journaliste phare de Djoliba TV, « et continuer de faire notre métier sans être les lèche-bottes de personne ».
David Baché. Dans l'actualité des pays africains, ce matin également, le Tchad, les avocats font la grève de la Cour suprême à partir d'aujourd'hui à N'Djamena. Le Conseil de l'Ordre des avocats dénonce notamment la multiplication des verdicts rendus sans jugement de la part de cette Cour. Ce matin, sur notre antenne, vous avez pu entendre le président du Conseil de l'Ordre tchadien expliquer qu'il souhaitait en fait plus de contrôle sur les activités de la Cour. La République démocratique du Congo, d'après nos informations, les rebelles du M23 étaient toujours présents hier soir à Walika les Centres, cette localité du Nord Kivu dont ils se sont emparés en milieu de semaine dernière et dont ils avaient annoncé leur retrait avant-hier dans l'optique, avait-il dit, de favoriser un dialogue avec les autorités congolaises. Alors qu'à Kinshasa, dans le même temps, débutent aujourd'hui des consultations en vue de tenter de bâtir un gouvernement d'union nationale, consultations déjà rejetées par la plupart des opposants congolais. On prend maintenant une minute pour tenter de décrypter les derniers propos du président algérien samedi lors d'un entretien à la télévision nationale. Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son unique point de repère, c'était le président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État algérien estime que le contentieux entre les deux pays, qui refait surface ces dernières semaines, a été créé de toutes pièces. Et il a ajouté qu'en cas de tension diplomatique, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui doivent régler leurs problèmes. Pour Brahim Oumansour, chercheur à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, le respect mutuel entre les deux pays et le retour à des canaux diplomatiques est essentiel.
Il y a un signe, en tout cas, d'ouverture vers le dialogue et un appel, surtout, à discuter, à traiter cette crise que je considère la plus grave entre les deux pays via les canaux diplomatiques. Et je crois que c'est ça, peut-être, la condition qui a été fixée par le président algérien pour éviter le pire, éviter une rupture qui n'est pas souhaitable des deux côtés de la Méditerranée, dans un environnement très instable et marqué par des tensions entre Alger et Rabat, et puis l'instabilité au Sahel. Mais il y a aussi des enjeux sécuritaires au niveau de la Méditerranée, trafic de drogue, terrorisme. Tous ces enjeux communs imposent aux deux pays de maintenir une coopération, de dépasser les tensions. Tous ces différents sujets imposent bien évidemment à ces deux États de poursuivre le dialogue avec le respect mutuel.
Le chercheur Brahim Oumansour. Et puis avant de retrouver Juan Gomez, un mot de football en ces jours de qualification pour la prochaine Coupe du Monde de football. Hier, le Gabon s'est emparé de la première place de son groupe en battant le Kenya 2-1. Les Gabonais resteront-ils premiers? Tout dépendra du résultat du match tout à l'heure entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Au total, il y a 8 rencontres à suivre aujourd'hui avec entre autres, par exemple, Centrafrique-Mali ou encore Guinée-Bissau-Burkina Faso. En attendant, il est 9h40 ici à Paris et vous êtes avec Juan Gomez.
Merci Xavier Besson, bonne journée.